De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Encore une fois, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, depuis le printemps dernier, et qu'on est très heureux de retrouver à nos micros, c'est Hubert Vallée. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Notre spécialiste de la chose internationale, en fait de la politique internationale. J'oserais pas englober toute la planète pour te demander toutes sortes de choses qui ne sont peut-être pas de ton ressort.
Mais serais capable.
Sûrement. Hubert, on a besoin de tes lumières parce que là, quand on regarde sur la frontière sud, on s'arrache les cheveux, on comprend plus rien. Premièrement, on a réussi, après les promesses de Justin Trudeau de protéger la gestion de l'offre, on se retrouve avec un accord Mexique. Ils ont changé de nom par là, ça. Là. Mmh. Ils ont un nouvel acronyme. Là.
États-Unis, Mexique, Canada.
Oui, c'est ça, le MAC ou quelque chose.
Oui.
Qui met en danger l'existence même de plusieurs productions agricoles québécoises et canadiennes. C'est d'un océan à l'autre là, que ça va toucher les producteurs laitiers, ces problèmes-là. Comment on a pu se faire tordre le bras à ce point-là pour en arriver à cet accord-là?
Tout simplement parce que les Américains ont le gros bout du bâton. Ce qui est caractéristique de Trump, il est habitué à négocier. Les gens l'ont connu comme homme d'affaires. Mm-hmm. Non seulement il va avoir un accord, mais avoir l'impression qu'il a gagné et l'afficher ouvertement. Donc, c'est très peu de choses qu'il reprochait à l'ENA, sinon d'avoir été fait par son prédécesseur. Et il en a fait un tremplin en disant, voyons, on s'est fait encore rouler avec moi les droits, les devoirs et les intérêts américains vont être défendus. Finalement, on n'a pas remis en cause les grands principes de l'ALENA. Il y a eu quelques points qui ont modifié, notamment pour la politique agricole, qui va faire des ravages au Québec notamment. Les premiers effets qu'on va voir prochainement, c'est les pintes de lait américains qui vont envahir nos supermarchés.
Qu'on ne doit pas toucher. Parce que, écoute, on a vu, surtout depuis quelques temps, là, depuis qu'on en discute de cette affaire-là, il y a des vidéos qui nous montrent des vues aériennes de production laitière américaine, là, où les vaches sont pas seulement dans leur... Tu sais, chez nous, on les met dans leur
pâturage,
carcan, si on veut, là, pendant le temps de la traite, mais le reste du temps, ils sont dans leur pâturage, ils sont libres. Le batifole là, dans le champ, mais là c'est inhumain comme condition, puis c'est surtout qu'on a des conditions, on a des comment je dirais ça, on a des limites que nous on s'impose de pas leur donner trop de médicaments, les antibiotiques, etc. Aux États-Unis, il y a pas de limite de ce côté-là.
Non,
pas de restrictions, puis ils nous font manger, ils nous font boire n'importe quoi là.
Évidemment, pour revenir à M. Trudeau, le Canada n'avait pas le choix. Ce qui continue et ce qui mène, c'est l'Ontario. Donc, finalement, c'était soit l'intérêt des entreprises automobiles de l'Ontario ou l'offre et la demande pour le lait au Québec. Donc, il n'y avait pas d'hésitation pour le gouvernement central.
Vous dites que M. Trudeau n'avait pas le choix. Bon, est-ce qu'on peut en vouloir? Parce que moi, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut en vouloir à Justin Trudeau? Il y a un mouvement qui dit qu'il n'a pas eu les couilles nécessaires devant Trump, mais même s'il avait eu ces couilles-là, est-ce qu'on se serait retrouvé avec l'accord qu'on a entre les mains aujourd'hui?
Évidemment, c'est pas la même personnalité que Trump, puis c'est pas également le même pouvoir. Il n'y a aucune commune mesure, malgré le développement récent du Mexique ou du Canada, avec la puissance économique, financière des États-Unis.
Mais est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose, à quelque part, dans cet accord-là?
Parce que une ouverture un peu plus des frontières, un peu plus de libre-échange, par contre, aux conditions américaines.
Parce que les fameuses surtaxes, les fameuses pénalités là, qui sont imposées sur différents produits que nous, on exporte, là, est-ce que c'est...
Oui.
Ça n'a pas été enlevé, ça.
Non, les Américains l'imposent. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire si les trois pays étaient, disons, d'un niveau égal, comme certains pays d'Europe. Là, c'est très inégal. C'est une superpuissance, un pays moyen, le Canada, et un pays en développement, le Mexique. Rappelons, par exemple, que là, il y a des usines automobiles au Mexique, à Puebla, mais les salaires sont 7 fois plus bas que ceux de Détroit. T'sais, c'est se mettre à niveau, même un écart. Hein.
C'est ça, ça n'a pas d'allure, parce que pour se mettre à niveau, il faudrait nous faire un recul immense là, dans notre qualité de vie, ça n'a pas de sens. Là.
Puis on n'est que le 10e de la population américaine.
Effectivement.
Alors, est-ce qu'on doit en vouloir à Justin Trudeau, selon vous, M. Vallée, oui ou non?
Disons que ça aurait pu mieux se faire, mais il n'y avait pas une grosse marge de manœuvre.
Est-ce qu'il est le seul responsable? Parce que je veux dire, c'est quand même pas lui qui est allé s'asseoir à la table, c'est Mme...
Oui, sa ministre des Affaires étrangères, après avoir boudé, qui a fait son possible, mais ils sont pris devant des telles menaces américaines que ça négociait très mal dans ce contexte.
En tout cas, c'est une autre des choses incompréhensibles qui se passent du côté sud de la frontière. Mais l'autre, c'est en fin de semaine dernière. Ça, j'en reviens juste pas. Là, on a largement fait la preuve par plusieurs témoignages que M. Brett Kavanaugh, le juge Brett Kavanaugh, qui était, bon, j'imagine, en cour supérieure, quelque chose comme
oui,
ça,
c'est
en, en dernier. Une cour fédérale, je pense, j'imagine.
Oui.
Et qui se retrouve maintenant aux plus hautes instances. Parce qu'ils ont un agenda très précis, les Républicains, on s'en cachera pas. Peu importe quelle était la nature du CV de Brett Kavanaugh, c'était le candidat qu'ils avaient choisi, puis il fallait qu'il passe parce que eux ont un agenda très précis. Ils veulent défaire plusieurs lois, là.
Oui, s'ils en ont le temps, s'ils peuvent. Puis il y a toujours les effets de manche. Parce qu'avec M. Trump, c'est pas tellement le fond qui compte. C'est l'impression que ça donne auprès de ses électeurs. Pouvoir dire, voyez, grâce à moi, le chômage a baissé. Grâce à moi, les salaires ont augmenté. Grâce à moi, il fait beau, plus beau depuis que je suis élu, etc. Oui. C'est l'effet, c'est la perception à son électorat qui compte.
Par exemple, au de la Floride. Par exemple, au de la Floride, il fait beau.
Ben oui, il y a beaucoup d'effets. Et pour répondre à la question, très brièvement, les États-Unis sont un pays qui est né, évidemment, à la fin du 18e siècle, pardon, et la Constitution a été faite à Philadelphie au printemps, à l'automne plutôt, 1787, par des juristes. C'était tous des juristes de haut niveau. John Adams, Hamilton, Jefferson, Madison et autres. L'exception, c'était Washington, aussi, ouais. Qui avait été que président, qui avait qu'une seule arme, s'est rentré chez lui. Et
là,
on avait un certain nombre de critères. Il fallait éviter les despotes et les tyrans, d'où la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, entre le législatif et entre le judiciaire. Puis ensuite, une liberté totale, religieuse, même si ça comptait des excès comme les sectes. Liberté totale d'expression. On poursuit pas un journal américain, il n'y a pas de télé d'État et autres, c'est la liberté absolue d'expression. Les débats, les procès sont télévisés aux États-Unis. Ce qui est impensable dans beaucoup d'autres pays, à moins que aux États-Unis, que ça implique des
mineurs. Si on fait des dessins, on veut même pas prendre de photos.
Oui, exactement. Donc, par conséquent, il y a un certain nombre de principes qui datent de la Constitution. Oh, il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été faits, mais tout avait été fait de manière très précise. La durée du mandat présidentiel, ça avait pris des semaines de débat. Le législatif, député 2 ans seulement, sénateur 6 ans. Puis chaque État est un mini-gouvernement fédéral. Le droit criminel aux États-Unis dépend des États, ce qui explique que le Texas pratique encore la peine de mort. Beaucoup d'États l'ont aboli. Donc, par conséquent, c'est la Constitution américaine et le juge auquel vous faites allusion, évidemment, constitutionnellement, il est désigné par le président sur une liste de juristes historiquement éminents, parce que la Cour suprême, c'est 9 juges, c'est le plus haut tribunal du pays. C'est extrêmement important. Ensuite, il faut que ça soit approuvé par un comité sénatorial. Et les débats sont publics. Donc, théoriquement, ça aurait dû être comme du beurre d'emploi. Le président propose, on discute un peu et on entérime. Et là est arrivé le témoin surprise, accusant le juge en question,
Madame
évidemment
Ford.
Des faits qui ont été évoqués. Et là, c'était parole contre parole. Ce qui était inusité dans ce cas, c'est que Trump a fait l'attaque frontale. Au lieu de dire, bon, ben là, il y a des doutes, c'est mauvais, j'en désigne un nouveau, puis ça vient de s'éteindre. Il a soulevé la polémique en défendant Mordicus, son candidat, en démolissant le témoin, en disant, est manipulé, X temps plus tard, ça n'a pas de bon sens, etc. Finalement, il s'est obstiné. Il y a eu division, un vote extrêmement serré, des débats très largement débattu, et évidemment, le juge est passé. Évidemment, un juge nommé est élu à vue. Donc, il ne peut pas être dégommé, c'est la séparation totale des pouvoirs. Évidemment, seul l'âge, la mort met fin à son règne, mais c'est toujours le mécanisme président propose, et le comité sénatorial approuve le choix du président.
Mais chez nous, puis je pense que largement, là, normalement, là, un juge doit être un exemple de moralité, un exemple d'honnêteté, un exemple de droiture. Là, on place au tribunal le plus élevé du pays quelqu'un qui s'est prouvé qui a eu une... Je veux bien croire, là, c'est dans sa jeunesse, mais c'est le bonhomme pareil, là. Ça fait partie de lui. Il a quand même causé préjudice à plusieurs femmes pendant ces années d'université, des agressions sexuelles qui ont été témoignées par plusieurs personnes. Même ses colocs, ses cochambeurs de l'époque, il y en a plusieurs qui ont refusé de se présenter. Ils avaient peur de s'impliquer trop avant et de lui nuire.
Dans le cas précis, dans le fond, pour M. Trump, c'était son candidat, ça n'a pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'il ne perde pas la face. Sans doute, soit battu, lui, il considérait comme un complot contre lui. Donc, c'est normal, un président propose toujours un candidat d'un peu de sa tendance conservatrice ou plus libérale, mais c'était pas le pour ou contre le juge pour M. Trump, c'était qu'il pouvait pas supporter d'être désavoué. Il aurait pu, avec souplesse, obliger en quelque sorte le juge à se démettre et autres, ou plutôt à renoncer à sa candidature et en proposer un autre. Mais il n'était pas question qu'il soit désavoué.
En se battant bec et ongle aussi sévèrement, lui-même qui n'a pas une moralité à toute épreuve non plus, là, premièrement, il s'entachait lui-même jusqu'à un certain point. Puis en même temps, là, est-ce qu'il dévoilait pas justement cet agenda dont je te parlais tantôt, qui veut que ce juge-là va être le gars qui va faire la différence pour faire en sorte que des lois soient passées ou soient des lois soient démolies, surtout pour nuire, en fait, qui à court terme pourrait...
Évidemment, un des rôles principaux de la Cour suprême, c'est de voir si les lois proposées sont conformes à la Constitution américaine. Ouais. Celle de 1787, qu'on a abandonnée un certain nombre de fois, mais qui est l'abîme de la vie politique américaine. Par exemple, elle dit, les mandats de manière très précise et autres, on dit qu'un président, un représentant, même un juge, peut être congédié pour trois raisons. Trahison, immoralité flagrante ou encore corruption. Mais encore, faut-il le prouver, donc c'est écrit, etc. Mais c'est quand même, elle est là pour, comme gardienne en quelque sorte, des lois et de la Constitution américaine. Elle ne peut pas modifier les lois.
Mais les avancements sociaux que les démocrates ont amenés, ils peuvent être démolis par l'amendement de
ces lois. Les lois et le budget sont votés par les deux chambres. Les députés en premier lieu, puis ensuite le Sénat. Évidemment, pour les grandes questions, ça prend les deux tiers des députés et sénateurs réunis, notamment pour les amendements. Il n'y a pas eu beaucoup d'amendements depuis l'existence américaine. On a précisé certaines choses, comme quoi, vu qu'il y avait la milice, que les gens avaient le droit de continuer à porter des armes. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armes automatiques. Mmh. Ensuite, on a fait une loi, un amendement qui a passé dans les années 1950, rendant en quelque sorte inéligible un troisième mandat présidentiel. Autrement dit, c'était deux mandats consécutifs et le président devait se retirer. Pas question de mandat à vie. Il y a eu évidemment un certain nombre d'amendements sur l'alcool, la prohibition, quelques-uns, mais finalement, uniquement quelques amendements à la Constitution. Et là, il faut que ça soit voté par les deux tiers des deux chambres.
Et si je profitais de vos connaissances, votre savoir, on entend parler beaucoup de mi-mandat dans ce temps-ci. Monsieur Vallée, qu'est-ce qui peut arriver au mi-mandat?
Bien, rappelons que ça concerne le législatif. Donc, à tous les deux ans, la totalité des 537 députés qu'on appelle représentants se représentent en élection dans leurs différents États et le tiers du Sénat. Il y a 100 sénateurs, à peu de choses près, donc exactement 100. Donc, le tiers se représente. Et là, finalement, c'est des élections législatives. Et c'est la séparation des pouvoirs. Un président peut très bien gouverner en ayant une majorité opposée à la Chambre des représentants ou au Sénat.
Obama l'a fait.
Oui.
C'était, à son arrivée, c'était pas mal comme ça.
D'autant plus que les partis, c'était pas quelque chose, encore une fois, d'homogène. Il y a des démocrates plus conservateurs dans le Sud, il y a des républicains plus ouverts, notamment en Californie. Puis ensuite, une chose qui est difficile à comprendre pour nous, c'est le système des grands électeurs. Ouais. On est habitué, par exemple, un président élu au suffrage universel. 55 millions de pour, l'autre à 53, le premier gagne. Aux États-Unis, ça fonctionne pas ainsi. Sans le système des grands électeurs, M. Trump n'aura pas été élu. Hillary Clinton avait quand même plus de 4 millions de votes plus que lui. Donc, ça date du début. On est au 18e siècle. La démocratie est encore fragile. Ça existe dans pratiquement pas de pays. On dit, minute, le peuple, pas tellement d'instructions. Il faut que ça soit nous, l'élite, qui dirigeons le peuple. Donc, finalement, c'était très paternaliste. C'est ce qu'on appelle le système des despotes éclairés. Donc, finalement, on disait, pas question d'un vrai suffrage universel. Il faut avoir un droit de contrôle par les grands électeurs. Les États ont dit ensuite, minute, nous, on est un tout petit État. Au suffrage universel, on n'a aucun poids dans la Confédération.
On passe dans le beurre.
Donc, on a dit, on va faire les grands électeurs. Autrement dit, c'est proportionnel, le nombre de grands électeurs par la population de l'État. Par contre, si, dans un État X, on rapporte l'État par 10 voix, c'est la totalité des électeurs qui balance.
Je pense que les gens commencent à comprendre aux États-Unis, cependant, il y a tellement divisé la population avec ces phrases que là, les gens commencent à comprendre qu'ils ont peut-être un problème, même jusqu'à remettre en question leur système bipartite aussi.
Oui, mais il faut les deux tiers. Ça serait une réforme extrêmement importante et pas beaucoup de monde, et surtout pas Trump ou l'Allemagne. Sans ce système des grands électeurs, M. Trump ne soit pas rentré.
C'est sûr que c'est pas lui qui va changer ça. Hubert, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
C'est toujours intéressant de pouvoir avoir vos lumières là-dessus, parce que c'est... Sinon, là, on a l'impression... En tout cas, moi, je voudrais pas pour tout l'or du monde être américain. Dans ces temps-ci, c'est incroyable.
On va suivre les élections de novembre, mais il faut pas s'attendre à ce que le Trump change beaucoup, quels que soient les résultats.
Trump ne changera pas, mais il risque d'avoir plus de difficultés à faire ce qu'il veut, par exemple.
Oui. Et on ne sait pas s'il a l'intention de se représenter ou non. Ce qui compte pour lui, c'est son image. Ouais. Et l'influence qu'il a sur un certain électorat.
Il devrait voir que son image est ternie pas mal.
Et rappelons que si le droit de vote existe depuis 1920 aux États-Unis pour les femmes, il n'y a jamais eu une présidente.
Non, on n'a pas assez droit la dernière fois. Merci Hubert Vallée.
Ça
on fait une pause et on revient avec le mot de la fin.